Les petites histoires font les grandes histoires. Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région, avec Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle chronique des Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche, intitulée aujourd'hui « Les Sauvagines et leur foire ». Ce sera notre 223e émission et notre 159e chronique. Pour les textes, nous avons fait appel aux auteurs et aux ouvrages suivants. Muriel Rousseau, Les Tanneries de Bellac. Richard Gascon, La Foire des Sauvagines de Châlons. André Georget, Les Foires aux Sauvagines de Montferrand. Charles Sylvestre, Au Soleil des Saisons. Alain Brissard, Catalogue du Festival de Bellac de 1978, exposition des mammifères sauvages du Limousin, et le bulletin Vie et métiers, les métiers du cuir.
Petites et grandes histoires de la Basse Marche.
Dans les pays froids ou tempérés, l'homme primitif imagina très tôt se couvrir de la toison des animaux qu'il avait tués. Sans doute nos ancêtres de la préhistoire savaient-ils préparer les peaux d'animaux pour qu'elles ne pourrissent pas. Ils les découpaient ensuite en formes différentes, puis les réunissaient par couture, non sans les avoir assouplis, en les imbibant avec de la moelle et de la cervelle animale. La Bible elle-même fait mention de l'emploi des peaux de bêtes. Dieu donna à Adam et à sa femme des habits de peau de bête et les en revêtit. On sait également que Charlemagne lui-même portait en hiver un pourpoint de peau de loutre sur une tunique de laine bordée de soie. Au Moyen Âge, on parle surtout de la peau d'hermine ou d'armine, car elle doit son nom aux négociants arméniens qui eurent le privilège d'en approvisionner l'Europe. Les ducs, les héros d'armes dont les cérémonies, les docteurs d'université, les bacheliers et même les prêtres se vêtent de fourrure ou portent des manteaux garnis d'hermine. Les dames de cette époque portent des soubrevestes, sortes de justaucorps sans manches, la plupart du temps en fourrure. Dans certains couvents, les dames portent des robes de couleur fourrée de loup cervier, de genette noire, de martre, de calabre et autres fourrures précieuses. Au XVIIe siècle, apparaît la mode du manchon d'hiver en satin ou en velours, doublé de fourrure. Dans ces manchons, les belles dames logent parfois de tout petits chiens, d'où le nom de chien manchon que l'on donne à l'objet. La corporation des pelletiers fourreurs est constituée à Paris en 1183 sous Philippe Auguste. Les pelletiers exerçaient le négoce des fourrures alors que les fourreurs avaient pour tâche de les transformer en vêtements. Les fourreurs employaient des peaux d'agneaux, de chats, de renards, de lapins, d'écureuils, d'hermines, de loutres, de belettes, de petits gris, de martres zibelines, de loirs. Mais il faut aussi ajouter le chien, le loup, le daim, la chèvre et le chevreau, la genette, le blaireau, la fouine, le mouton, etc.
Petites et grandes histoires de la Basse Marche.
La préparation de la peau. Il est essentiel qu'aucune partie de la toison ne soit enlevée par l'apprêtage du côté de la chair. Pour la mise en confit, on se sert d'un vieux bain usé dans lequel la peau ne séjourne pas longtemps. Le tannage est ensuite réalisé au moyen de l'alun et du sel marin. Les peaux préparées sont ensuite confiées au lustreur qui applique des couches successives de teinture. Dans son ouvrage « Les tanneries de Bellac », Muriel Rousseau traite de la communauté des métiers du cuir. L'industrie du cuir, écrit-elle, ne comprenait pas que des tanneurs. Ce secteur englobait auparavant une grande diversité d'artisans. Depuis le milieu du XVIIe siècle, figurent dans les registres d'état civil conservés nombre de tanneurs, corroyeurs, cordonniers, bottiers, mais aussi des chamoiseurs qui passaient les petites peaux de vin et de caprin en huile et des mégissiers, dits à Bellac blanc-saunier. Ils traitaient ces mêmes peaux, mais passaient en blanc à la mégie. Tous deux fournissaient les marchands gantiers. Ces artisans existèrent à Bellac jusqu'à la fin du XIXe siècle. Elle nous parle ensuite des pelletiers et elle écrit de façon surprenante, les marchands pelletiers préparant les peaux à fourrure forment un groupe non négligeable. Peut-être faudrait-il le mettre en relation avec la pratique en basse marche de la capture de sauvagines ou puants, petits mammifères au pelage recherché, renards, putois, fouines, qui faisaient l'objet de foires importantes. Alors nous n'avons pas trouvé de texte sur les foires aux fourrures de Bellac, si toutefois elles existèrent. On peut penser que bien des tanneurs de Bellac pratiquaient aussi l'activité de pelletier-fourreur et entreposaient dans leurs entrepôts des fourrures de sauvagines et de puants. Concernant les foires aux sauvagines et puants, quelques-unes avaient acquis une renommée nationale, voire internationale. C'était le cas de celle de Poitiers, de Chalon-sur-Saône, de Châtellerault et surtout de Montferrand. On sait que des chasseurs du Berry, du sud de l'Indre et sans doute aussi du nord de la Haute-Vienne s'y rendaient. Des négociants qui collectaient les peaux dans nos campagnes ou auprès des tanneurs s'y trouvaient également. Voici un texte de Richard Gascon concernant les foires de Chalon. Peu à peu, dans le demi-jour, les vendeurs se sont installés et l'auteur distingue deux catégories. Il y a là des paysans des environs à moustaches rousses. Ils sont venus dans les chars à bancs classiques. Ils n'apportent que des petits lots prises heureuses qui récompensent les loisirs d'hiver occupés à la chasse. D'autres arrivent avec leurs marchandises suspendues à leur dos. La bigarrure des costumes et la diversité des visages expriment la variété des lieux de provenance de ces ramasseurs. Et parmi ces ramasseurs, on doit en compter certains qui avaient visité et récolté dans le nord de la Haute-Vienne. Les uns rôdent avec leur charge de peau de bête sur l'épaule, les autres ont déposé leurs marchandises. Monceaux de renards fauves, dont on ne voit que l'extrémité décharnée du museau et le panache dérisoire de la queue, mais aussi fouines, minces et brunes, martres plus brunes encore, putois aux poils fins, rudes blaireaux argentés, loutres, dont la dépouille retournée et raidie forme une sorte de fuseau huileux. Et puis voici les tas de peaux de chèvre, par charter les peaux de lapin très blanches, les petits écureuils rougeâtres, les belettes minuscules, les petits lots de taupes par paquet de 12, etc., etc.
À la foire de l'Est, peau de pomme, une petite taupe mon père m'avait achetée. À la foire de l'Est, peau de pomme, une petite taupe mon père m'avait achetée. Soudain la chatte mange la taupe qu'à la foire mon père m'avait achetée. Soudain la chatte mange la taupe qu'à la foire mon père m'avait achetée.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
À Montferrand, écrit André Georget, la foire aux trappeurs, la foire aux sauvagines est ancienne, elle date de 1370. La lettre patente du roi crée une foire où seraient vendus et troqués renards, fouines, putois et autres bêtes puantes. Cette foire qui se tenait place de la Fontaine durait au moins une semaine et alors Montferrand devenait la capitale de la pelleterie européenne. On venait y entasser les peaux parfois sur plus de 2 mètres de hauteur. On en formait aussi des ballots que l'on fermait avec des joncs. On trouve surtout des peaux de fouines, de putois, de blaireaux et de renards. Et les transactions s'opéraient dans une atmosphère empuantie par les senteurs fauves de ces peaux séchées. Là encore, comme à Chalon, on trouve des producteurs locaux, les petits, et des collecteurs nationaux, les gros. Les petits étaient des paysans de la région qui venaient avec 10 peaux de renard ou 5 peaux d'écureuil, alors que les ramasseurs pouvaient en montrer 10, 50 fois plus.
Soudain la bête vient boire la verse qui ruinait la flamme, qui brûlait la trique, qui frappait la chaîne, qui mordait la chatte, qui mangeait la taupe.
Petites et grandes histoires de la basse marche.
Nous allons nous intéresser maintenant à ces animaux qualifiés de sauvagines, de puants ou de nuisibles que chassaient nos trappeurs de basse marche. pardon pour le terme de trappeur, qui ne convient guère à nos paysans locaux, qui sont plus des piégeurs, des braconniers, des déterreurs, qui pratiquent cette activité particulièrement pendant l'hiver pour arrondir un peu leurs revenus. Nous allons le faire grâce à l'ouvrage « Au soleil des saisons » de Charles Sylvestre et au catalogue du 25e Festival de Bellac, catalogue de l'exposition « Mammifères sauvages » du Limousin. Voici donc les bêtes que l'on chassait. Dans l'ordre des carnivores, dans la famille des canidés, le renard. Dans la famille des mustélidés, le blaireau, l'hermine, la belette, le putois, le furet, la martre, la fouine, la loutre. Mais il y a aussi la genette. Dans la famille des félidés, le chat sauvage. Dans l'ordre des rongeurs, l'écureuil ou le loir. Et puis aussi le ragondin. Et dans l'ordre des insectivores, la taupe. Alors que fabrique-t-on avec ces peaux de bêtes, bien qu'aujourd'hui on utilise de plus en plus des fourrures synthétiques? Notons cependant qu'encore aujourd'hui, les peaux de bêtes jetées au pied de la cheminée ont toujours la cote. Alors que fabrique-t-on avec ces peaux de bêtes? Des pièces de décoration ou d'ameublement, des jetées de canapé, des plaies en peau de lapin, des couvertures, des dessus de lit, des coussins, des galettes de chaises, des poufs, des tapis, bien sûr, des vêtements. Pendant longtemps, le summum de la réussite, de l'expression de la fortune, c'était de posséder un manteau de fourrure. Bien sûr, on fabriquait des manteaux, des blousons, des vestes, des ponchos, des gilets, des boas, des écharpes, des tours de cou, des cols, des toques, des bonnets, des casquettes, des moufles, des gants, des chaussons, des pantoufles. Sans entrer dans le détail, on utilisait par exemple la peau et surtout la queue de la fouine en bordure, en palatine, une cape que l'on portait sur les épaules ou en boa. La loutre était utilisée pour faire des chapeaux, la martre pour confectionner des écharpes, des cols, des tours, des manchons, des bas de tunique. Les poils de la queue de l'écureuil servaient à confectionner des pinceaux, ceux du blaireau, nous en reparlerons, des pinceaux à barbe. Nous connaissons tous l'histoire de la pantoufle de verre, V-A-I-R et non V-E-2-R-E, de Cendrillon. Le verre, en effet, est une fourrure grise et blanche de l'écureuil, petit gris, au dos gris et au ventre blanc. La pantoufle de Cendrillon était sans doute, en fait, en fourrure. Signalons enfin qu'il faut en moyenne 800 peaux de taupe pour confectionner un manteau et même 1600 si l'on veut qu'il soit très bonne qualité. Avec Charles Sylvestre, dans « Au soleil des saisons », nous allons nous intéresser à la fouine. La fouine est un petit carnassier au luisant pelage, glacé d'or sombre, rapide et fourré de silence. Il est difficile de l'apercevoir et plus encore de la prendre au piège. Pour la saisir, il faut des ruses très savantes, des appâts choisis, une trace de pas, une odeur que le nez d'un bon chasseur ne pourrait sentir, l'inquiète et lui enlève l'appétit. Une perpétuelle prudence est en éveil de la pointe de ses oreilles au bout de sa queue touffue. Morte, son poids semble fait uniquement d'une longue et souple masse de muscles. Elle sait délicatement cueillir entre ses dents aiguisées les œufs des poulaillers mal défendus afin d'en sucer le jaune et le blanc. Elle marcherait sur les coquilles vides sans les briser. Bête adroite et propre, ardente et froide, et qui montre autant d'habileté que de force. Elle saigne un poulet sans le faire crier après avoir crevé sa gorge d'un coup précis. Elle se contente souvent d'une rasade de sang chaud, mais s'il est possible d'entraîner la proie hors du gîte, elle se repaît des meilleurs morceaux et abandonne le reste à des animaux plus vulgaires. En hiver, lorsque le temps est favorable et la besogne moins pressante, quelques garçons du village, chasseurs éprouvés et vieux connaisseurs de ruses, jurent sa perte. Ils tendent le piège dans les parages où la cruelle a ses habitudes et ses relais de rapine. D'autres fois, ils vont la guetter à la gueule du fusil et la foudroient à bonne portée. C'est un plaisir de la voir sauter et retomber dans la mort. Elle s'échappe fréquemment, elle a plus d'un tour dans son sac et ne donne à tuer que son ombre. Une fois bien morte et roidie, le chasseur lui passe la main dans le poil et en même temps, il voit l'argent, le tabac, le vin que représente la fourrure si désirée et si douce au visage des dames de la ville. Sans retard, il va la vendre et la suspend au bout d'une perche qu'il appuie fièrement sur son épaule. Il est bien content d'entendre dire sur son passage « Tiens, le voilà qui a tué la fouine. Il n'est pas manchot et même il n'a pas les deux pieds dans une seule chaussette. Ah, diable ! Il voit clair en pleine nuit comme un vrai chat. » Dans les maisons qui bordent la route départementale, on l'invite rudement à boire et des jeunes filles lui donnent des œufs, un sourire. On lui demande comment il a mis par terre une pareille bête. Il continue son chemin, la fouine pendue à la perche se balance à chaque pas. Il est plus heureux qu'un prince. Il arrive enfin à la bourgade, le chiffonnier, qu'il a vu venir de loin, sort tranquillement de son échoppe et lui dit « Tu as un brave polichinelle ou ce serait-il une danseuse ? Veux-tu des sous ?» Le bonhomme s'approche de la bête, tire sur les poils, fin de regarder s'il n'en reste pas dans ses doigts. Ils vont ensemble à l'auberge, comme s'ils roulaient sur une même pente. On pose l'animal sur la table, à côté du litre de vin rouge qui doit éclairer le marché. Le chasseur a demandé le prix le plus haut et redescend à petits coups à chaque verre en traitant le chiffonnier de quelques noms d'oiseaux méprisables. Mais le chiffonnier a bon caractère. Bientôt, il fait mine de se fâcher. Il a des mouvements convulsifs, des soubresauts. On veut le mettre sur la paille comme une nèfle, renverser le pot de sa soupe et lui ouvrir tout grand l'hôpital. Il gagne la porte, hausse les épaules, on le rappelle. Alors il tend la main bien ouverte et crie « Tape dedans, je te donne tant de pistoles, tu m'écorches !» L'autre semble hésiter encore, regarde le cuir de cette paume tendue, il fait mine d'en avoir une peur insurmontable et tout à coup il abat la sienne dessus comme s'il voulait assommer un animal de bonne taille. Marché conclu, le chiffonnier compte péniblement les billets au coin de la table et dit qu'il n'est pas raisonnable de payer du poil aussi cher. Il aura la peine de dépouiller une bête qui ne sent pas le jasmin. Argent au gousset, le chasseur déclare qu'il est pipé, mais qu'il a la consolation de le savoir. Une autre fois, ce sera un peu plus cher. Le chiffonnier hoche sa tête poussiéreuse et ne répond pas.
Petit pois, joli pois, rempli de noisettes. Petit pois, joli pois, je connais ton roi. Il est là, l'écureuil, dans sa maisonnette. Il est là, l'écureuil, debout sur son seuil. Il me voit, je le vois, tenant sa noisette. Il me voit, je le vois, feu follet du bois. Écureuil, donne-moi ta jolie noisette. Écureuil, donne-moi ce trésor du bois. Non, 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 tu l'auras, ma jolie noisette. Non, 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 tu l'auras quand tu l'attraperas. Un, deux, trois, suivez-moi hors de ma cachette. Un, deux, trois, suivez-moi tout au fond des bois. La 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 la.
Nous avons déjà consacré une émission à l'écureuil et nous allons aujourd'hui nous intéresser à sa fourrure. L'écureuil petit gris fut pendant longtemps chassé pour sa fourrure. Petit gris est le nom qui fut donné par Buffon à une ou plusieurs espèces d'écureuils gris donnant la fourrure connue sous le nom donc de petit gris. Au Moyen Âge, on l'appelait encore petit blanc ou vert, V-A-I-R. La fourrure de petit gris est faite uniquement avec la fourrure grise provenant des dos d'écureuils assemblés entre eux, tandis que le vert est une fourrure blanche et grise formant un luxueux damier bicolore obtenu par l'alternance des dos gris et des ventres blancs de ces animaux. On conservait soigneusement la raie noire mettant en valeur la blancheur du ventre plus luisant que celui de l'hermine. Le gros vert était une fourrure de qualité inférieure, alors que la mention fourrée de menu vert, dont les inventaires des trousseaux médiévaux indiquaient que cette fourrure délicate était privilégiée pour la doublure des vêtements. La quantité de fourrure d'écureuil utilisée, et donc d'animaux abattus, était considérable. C'est ainsi qu'au XIVe siècle, à la cour de Charles VI et d'Isabeau de Bavière, on utilisera la peau de 20 000 écureuils en moins de 2 ans. Il faut dire que cette fourrure douce et délicate, presque aussi coûteuse que l'hermine, était réservée au Moyen-Âge, aux nobles et même au XIVe siècle, aux rois. Les bourgeois qui en portaient durent s'en défaire.
Écureuil du printemps, écureuil de l'été, qui domine la terre avec vivacité. Que penses-tu, larron, de notre humanité? Les hommes sont des fous qui manquent de gaieté. Les hommes sont des fous qui manquent de gaieté. Écureuil que tout fut d'or et trésor des bois, ornement de la vie et fleur de la nature, juché sur ton pain vert, dis-nous ce que tu vois.
Pour terminer, nous allons nous intéresser au blaireau, d'abord avec Charles Sylvestre dans « Au soleil des saisons ». Le blaireau est un solide animal à rude fourrure grise et noire. De ses pattes bien armées et de sa longue tête piriforme, il creuse un profond terrier dans les parages solitaires où il cherche sa vie et son repos. On ne lui voit aucun panache, aucun ornement. Sa queue si courte et piteuse révèle sa parfaite humilité. Il aime l'ombre chaude d'un gîte bien défendu. On ne peut guère l'apercevoir. Il va chasser pendant la nuit. Ce tranquille a des habitudes régulières, il sort de son trou et revient à point nommé, suivant les mêmes coulées secrètes. Le soleil qui descend à l'horizon et l'aurore qui va poindre au fond du ciel règlent ses maraudes. Gourmand, il mange de tout. Racines, baies sauvages, insectes, miel et fruits tombés selon les saisons. S'il découvre une vigne ruisselante de raisins, ce sera fête pour sa grosse panse et son gosier. S'il gobe un grain de raisin, il en fait autant d'un œuf quand il en trouve. Hélas, il ne méprise pas une jeune perdrix. Il sait cueillir les lapereaux avec une ruse singulière, après avoir fait au-dessus de leur terrier un trou en forme d'entonnoir. Ce sont là ses plus grands défauts. Il est très soigneux. 2 ou 3 fois par an, il pousse dehors des monceaux d'herbes et de feuilles dont il garnit sa demeure, renouvelle sa litière en traînant sa charge à reculons. Le renard vient parfois souiller son seuil de ses déjections. Il ne peut supporter l'injure et la saleté du personnage, quitte son terrier et va fonder un autre repère. Il se confine dès les premières gelées jusqu'au printemps. Quand vient l'automne, il se gave, prend de l'embonpoint. Et pendant l'hiver, il se nourrira de sa graisse. Il ira pourtant se promener un peu si quelques nuits sont assez douces. Sa famille se compose d'une blairette et de 3 petits blaireautins qu'il élève fidèlement. Les chasseurs lui font la guerre, lui tendent des pièges, mais il faut beaucoup d'adresse. Il est très prudent, pose chacune de ses pattes après en avoir ferré la place, renifle, tâte le terrain, écoute. Même prix, il arrive souvent à se délivrer tant il est fort et violent. Quand son logis est cerné par les porteurs de fusils et de couteaux, il tient tête, endure un terrible siège. Il se défend avec un surprenant courage. À la gueule embrasée des chiens, toute retraite coupée, il se couche sur le dos. On connaît alors la rudesse de ses griffes et la solidité de ses dents. Il vend chèrement sa peau et montre au soleil la puissance d'un humble animal qui devient splendide en luttant jusqu'au dernier souffle. On chasse le blaireau avec des bassets à jambes torses qui vont le relancer jusqu'au plus profond de son terrier. Le blaireau s'enfonce de plus en plus, éboule des terres sur son ennemi, tâche de lui boucher le passage. Il se retourne de temps en temps contre les chiens et les mord aux pattes et au museau. Mais il finit par s'épuiser. Comme il ne court pas, on l'assomme ou on le serre avec des tenailles et on le muselle pour l'empêcher de mordre. Un déterreur creusois explique « C'est lourdeau un blaireau. Un homme le suivrait bien à la course. C'est pas tôt, mais c'est très joli aussi. Bien moins rapide que le renard, il est plus vulnérable. Les chiens vont le coincer au fond du terrier, seulement il se défend bien. » De la peau du blaireau, on fait des fourrures grossières, des colliers pour les chiens, des couvertures pour les chevaux. On utilise ses poils qui ont faculté de bien retenir l'eau pour fabriquer les pinceaux de rasage qui d'ailleurs portent le nom de blaireau. On utilisait sa graisse blanche, inodore et insipide et molle pour calmer les douleurs des reins, pour apaiser l'ardeur des fièvres. Cette graisse, comme la peau elle-même, était souvent employée pour soigner les douleurs des rhumatismes, pour combattre les douleurs lombaires, celles des articulations, pour favoriser aussi le sommeil. Les vendeurs de peaux de blaireau expliquent « Une peau de blaireau simplement posée sur votre lit, dormez dessus et elle agit pendant la nuit. » Vous pouvez aussi opter pour la ceinture, les semelles, ainsi que les pantoufles en peau de blaireau. Le blaireau doit une large part de sa célébrité à Hildegarde, une moniale fondatrice de plusieurs monastères qui était aussi naturaliste. Voici ce qu'elle écrivait à propos du blaireau. Le blaireau est chaud, il a des mœurs tranquilles, il détient des forces très puissantes, mais il n'a pas envie de montrer ses forces. Il y a une grande puissance dans sa fourrure. Faisons une ceinture et porte-la à même ta peau nue, et toute maladie disparaîtra en toi. Tout comme une grande tempête s'apaise dans une atmosphère sereine et tranquille, et aucune maladie dangereuse ne s'abattra sur toi. Faisons aussi des chaussures et des jambières avec sa peau, et tu auras des pieds et des jambes en bonne santé. Merci de nous avoir suivis pour cette nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche consacrée aux sauvagines et à leur foire. Pour les textes, nous l'avons fait en compagnie de Muriel Rousseau, de Richard Gascon, de Charles Sylvestre, d'Alain Brissard et du bulletin Vies et Métiers. Pour les accompagnements musicaux, nous avons fait appel au groupe Maluser, nos chanteurs Angelo Branduardi, Matteo Alteri, au compositeur René Aubry et Camille Saint-Saëns que nous écoutons en ce moment. C'est un extrait du Carnaval des animaux. Je vous donne rendez-vous le week-end prochain pour une nouvelle chronique des petites et grandes histoires de la basse marche. À très bientôt donc, et très bonne semaine à vous tous.
Les petites histoires font les grandes histoires. Claude Perronnet nous raconte nos histoires de vie, les racines de la région, avec Petites et Grandes Histoires de la Basse Marche.